Histoire de la Réformation du XVIe siècle. 16.4. Rôle politique de Zwingli. Luther et Zwingli, ou l'Allemagne et la Suisse. Philippe de Hesse et la cité chrétienne. Rapprochement entre Zwingli et Luther. Projet d'alliance de Zwingli contre l'empereur. Zwingli contre Charles Quint. Détrôner les tyrans. Zwingli destine l'empire à Philippe. Alliance universelle. Ambassade à Venise. Alliance projetée avec la France. Plan présenté par Zwingli. Les Français le rejettent. Déclaration des cinq cantons. Discours violent. Persécution. Papier mystérieux. Diète évangélique. Diète générale à Bade. Cri de guerre de Zwingli. Députation de Schwitz et d'Uri. Réforme politique de la Suisse. Activité de Zurich et de Zwingli. Mais il n'était plus temps de marcher dans cette voie qui eût prévenu tant de désastres. La réforme était déjà entrée à pleine voile dans l'océan orageux de la politique, et des malheurs inouïs allaient fondre sur elle. L'impulsion donnée à la réforme venait d'un autre que des colampades. L'œil fier et vif de Zwingli, ses traits rudes, sa démarche hardie, tout annonçait en lui l'esprit résolu et l'homme d'action. Nourri des exploits des héros de l'Antiquité, il se jeta pour sauver l'Évangile sur les traces des Démosthènes et des Catons, plus encore que sur celles des saints Jean et des saints Paul. Son regard, prompt et pénétrant, se porta à droite, à gauche, dans les cabinets des rois et les conseils des peuples, tandis qu'il n'eût dû se diriger qu'en haut, vers le trône de Dieu. Nous avons déjà vu que, dès 1527, Zwingli, découvrant toutes les puissances qui s'élevaient contre la réforme, avait conçu le plan d'une combourgeoisie ou cité chrétienne qui réunirait tous les amis de la parole de Dieu en une ligue sainte et puissante. Une telle alliance était d'autant plus facile que la réformation de Zwingli avait gagné Strasbourg, Augsbourg, Ulm, Reutlingen, Lindau, Memmingen et d'autres villes de la Haute-Allemagne. Constance y entra en décembre 1527, Berne en juin 1528. Saint-Gall en novembre de la même année, Bienne en janvier 1529, Mulhouse en février, Bâle en mars, Schaffhausen en septembre et Strasbourg en décembre. Cette partie politique du rôle de Zwingli est aux yeux de quelques-uns son plus grand titre de gloire. Nous n'hésitons point à y voir sa plus grande faute. Le réformateur, quittant les sentiers des apôtres, se laissait séduire par l'exemple pervers de la papauté. L'Église primitive n'opposa jamais aux persécuteurs que les dispositions de l'Évangile de paix, et sa foi fut le seul glaive avec lequel elle vainquit les puissances de la terre. Zwingli sentait bien qu'en entrant dans les voies des politiques du monde, il sortait de celle d'un ministre de Jésus-Christ. Aussi cherchait-il à se justifier. Sans doute, disait-il, ce n'est pas avec des forces humaines, c'est avec la seule force de Dieu que la parole du Seigneur doit être maintenue. Mais Dieu, se sert souvent des hommes comme d'instruments pour secourir les hommes. Unissons-nous donc, et que des sources du Rhin jusqu'à Strasbourg, nous ne soyons qu'un peuple et qu'une alliance. Ainsi, Zwingli remplissait deux rôles. Il était à la fois réformateur et magistrat. Or, ce sont là deux caractères qui ne doivent pas plus être confondus que ceux de ministre et de soldat. Nous ne blâmerons pas les soldats, nous ne blâmerons pas les magistrats. En formant des ligues et en tirant l'épée, ils agissent d'après leur point de vue, quoique ce point de vue ne soit pas le nôtre. Mais nous blâmerons décidément le ministre chrétien qui se fait diplomate ou général. En octobre 1529, nous l'avons dit, Zwingli s'était rendu à Marbourg, où il était appelé par Philippe de Hesse. Et tandis que ni l'un ni l'autre n'avaient pu s'entendre avec Luther, le landgrave et le réformateur suisse, animés du même esprit d'audace et d'entreprise, s'étaient aussitôt rencontrés. Les deux réformateurs ne différaient pas moins sous le rapport politique que sous le rapport religieux. Luther, élevé dans le cloître et dans la soumission monacale, s'était imbu dans sa jeunesse des écrits des pères de l'Église, tandis que Zwingli, élevé au milieu des libertés suisses, s'était pénétré dans ses premières années, qui décident de toutes les autres, de l'histoire des anciennes républiques. Aussi, tandis que Luther était pour une résistance passive, Zwingli demandait qu'on s'opposât énergiquement aux tyrans. Ces deux hommes étaient les fidèles représentants de leur peuple. Dans le nord de l'Allemagne, les princes et la noblesse étaient la partie essentielle de la nation. Et le peuple, étranger à toute liberté politique, ne savait qu'obéir. Aussi, à l'époque de la Réformation, se contenta-t-il de suivre la voie de ses docteurs et de ses chefs. En Suisse, dans le sud de l'Allemagne et sur le Rhin au contraire, plusieurs villes, après des luttes longues et violentes, avaient conquis la liberté civile. Aussi, presque partout, y voyons-nous le peuple prendre une part active à la réforme de l'Église. C'était un bien, mais un mal se trouva tout à côté. Les réformateurs, hommes du peuple eux-mêmes, qui n'osaient agir sur les princes, pouvaient être tentés d'entraîner les peuples. Il était plus facile à la réforme de s'allier avec des républiques qu'avec des rois. Cette facilité faillait la perdre. L'Évangile devait ainsi apprendre que son alliance est dans le ciel. Il y eut cependant un prince avec lequel la réforme des États libres désira s'unir. Philippe de Hesse. Ce fut lui qui inspira en grande partie à Zwingli ses projets belliqueux. Zwingli voulut le reconnaître et introduire son nouvel ami dans l'alliance évangélique. Mais Berne, attentive à éloigner ce qui pouvait irriter l'empereur et ses anciens confédérés, rejeta cette proposition et excita ainsi un vif mécontentement dans la cité chrétienne. Quoi, s'écria-t-on, les Bernois se refusent à une alliance qui serait honorable pour nous, agréable à Jésus-Christ et terrible pour nos adversaires. L'ours, Berne, dit l'audacieux Zwingli, est jaloux du lion, Zurich. Mais il y aura une fin à toutes ces finesses, et c'est aux hommes courageux que la victoire demeurera. Il paraîtrait, en effet, d'après une lettre en chiffres, que les Bernois se rangèrent enfin au désir de Zwingli, demandant seulement que cette alliance avec un prince de l'Empire ne fût pas rendue publique. Ecolampade ne s'était point rendu, et sa douceur luttait, quoique modestement, avec la hardiesse de son impétueux ami. Il était convaincu que c'était par l'union cordiale de tous les fidèles que la foi devait triompher. Un secours précieux vint ranimer ses efforts. Les députés de la combourgeoisie chrétienne, s'étant réunis à Bâle en novembre 1530, les envoyés de Strasbourg s'efforcèrent de rapprocher Zwingle et Luther. Écolampad en écrivit à Zwingle, le suppliant de voler lui-même à Bâle et de ne point se montrer trop difficile. Dire que le corps et le sang de Christ sont vraiment dans la scène peut paraître à plusieurs une parole trop dure, lui écrivait-il, mais n'est-elle pas adoucie quand on ajoute « il s'y trouve pour l'esprit et non pour le corps ». Zwingle fut inébranlable. « C'est pour flatter Luther, dit-il, qu'on tient un tel langage, et non pour défendre la vérité. Edere est credere. » Néanmoins, il y avait là des hommes résolus à d'énergiques efforts. La fraternité fut sur le point de triompher. On voulait conquérir la paix par l'union. L'électeur de Saxe lui-même proposait une concorde de tous les chrétiens évangéliques. Le Landgrave invitait les villes suisses à y accéder. Le bruit se répandit que Luther et Zwingle allaient faire la même confession de foi. Zwingle, se rappelant les premières professions du réformateur saxon, dit un jour à table, devant plusieurs témoins, que Luther n'aurait pas des sentiments si erronés sur l'Eucharistie si Mélenchon ne l'entraînait. L'union de la réforme semblait sur le point de se conclure. Elle eut vaincu par ses propres armes. Mais Luther fit bientôt voir que Zwingle se trompait. Il exigea un engagement écrit, par lequel Zwingle et Écolampad adhéraient à ses sentiments, et en conséquence, les négociations furent rompues. La concorde ayant échoué, il ne restait plus que la guerre. Écolampad devait se taire, et Zwingle allait agir. En effet, Zwingle se jeta depuis lors, toujours plus avant, dans la voie où l'entraînait son caractère, son civisme et ses premières habitudes. Étourdi par tant de secousses, frappé par ses ennemis, repoussé par ses frères, il chancela et la tête lui tourna. Dès lors, le réformateur disparaît presque, et nous trouvons à sa place l'homme politique, le grand citoyen, qui, voyant une coalition redoutable préparer des chaînes pour tous les peuples, se lève contre elle avec énergie. L'empereur venait de s'unir étroitement avec le pape. Si l'on ne s'opposait pas à ses funestes desseins, c'en était fait, selon Zwingle, de la réforme, de la liberté religieuse et politique, et de la confédération elle-même. L'empereur, disait-il, soulève ami contre ami, ennemi contre ennemi. Et puis, il s'efforce de faire sortir de cette confusion la gloire de la papauté et surtout sa propre puissance. Il excite le châtelain de Musso contre les Grisons, l'évêque de Constance contre sa ville, le duc de Savoie contre Berne, les cinq cantons contre Zurich, le duc Georges de Saxe contre le duc Jean, les évêques du Rhin contre le Landgrave. Et quand la mêlée sera devenue générale, il tombera sur l'Allemagne, se présentera comme médiateur et fascinera par ses belles paroles les villes et les princes jusqu'à ce qu'il les ait mis sous ses pieds. Grand Dieu, quelle discorde, quel désastre sous prétexte de rétablir l'Empire et de restaurer la religion. Zwingle alla plus loin. Le réformateur d'une petite ville de la Suisse, s'élevant aux conceptions politiques les plus étonnantes, demanda une alliance européenne contre de si funestes desseins. Le fils d'un paysan du Toggenburg voulut tenir tête à l'héritier de tant de couronnes. « Il faut être un traître ou un lâche, écrivait-il à un sénateur de Constance, pour se contenter de bâiller et d'étendre les bras, quand on devrait réunir de toutes parts des hommes et des armes afin de montrer à l'empereur que c'est en vain qu'il s'efforce de rétablir la foi romaine, d'asservir les villes libres et de dompter les Helvétiens. On nous a montré, il y a 6 mois, comment on veut procéder. Aujourd'hui, on entreprendra une ville, demain une autre, et ainsi l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'elles soient toutes soumises. Alors, on leur enlèvera leurs armes, leurs trésors, leurs machines de guerre et toute leur puissance. Réveillez Lindao et tous vos voisins. Si l'on ne se réveille, les libertés publiques vont périr sous le prétexte de la religion. Il ne faut pas se fier à l'amitié des tyrans. Démosthène nous apprend déjà qu'à leurs yeux, il n'y a rien de plus haïssable que la liberté des villes. L'empereur, d'une main, montre du pain, mais dans l'autre il cache une pierre. Quelques mois plus tard, Zwingle écrivait encore à d'autres amis de Constance « Soyez intrépides, ne craignez pas les desseins de Charles. Le rasoir coupera celui qui l'aiguise. » Ainsi donc, plus de délai. À quoi bon attendre que Charles Quint réclame l'antique château de Habsbourg? La papauté et l'empire, disait-on à Zurich, sont tellement cousus l'un à l'autre que l'un ne peut subsister ni périr sans l'autre. Qui rejette la papauté doit rejeter l'empire, et qui rejette l'empereur doit rejeter le pape. Il paraît bien que les pensées de Zwingle allaient même au-delà d'une simple résistance. Une fois que l'Évangile avait cessé d'être sa principale préoccupation, il n'y avait plus rien qui pût l'arrêter. « Il ne faut pas, disait-il, que tel ou tel individu se mette dans l'esprit de détrôner un tyran. Ce serait une révolte, et le règne de Dieu veut la justice, la paix et la joie. Mais si tout le peuple, d'un commun accord, ou si du moins la majorité le rejette, sans commettre d'excès, c'est avec Dieu qu'il le fait. » Or, Charles Quint était maintenant aux yeux de Zwingle un tyran, et le réformateur espérait que l'Europe, se réveillant enfin de son long sommeil, serait la main de Dieu pour le précipiter de son trône. Jamais, depuis les temps de Démosthène et de Caton d'Utique, on avait vu une plus énergique résistance aux pouvoirs oppresseurs. Zwingle est, sous le rapport politique, l'un des plus grands caractères des temps modernes. Il faut lui rendre cet honneur, qui est peut-être pour un ministre de Dieu un douteux éloge. Tout était prêt dans sa tête pour accomplir une révolution qui eût changé la marche de l'Europe. Il savait ce qu'il voulait substituer à la puissance qu'il voulait abattre. Il avait même déjà jeté les yeux sur le prince qui devait ceindre la couronne impériale à la place de Charles. C'était son ami, le Landgrave. « Très gracieux prince, lui écrivait-il le 2 novembre 1529. Si je vous écris comme un enfant à son père, c'est que j'espère que Dieu vous a choisi pour de grandes choses, que j'ose bien penser, mais que je n'ose pas dire. Cependant, il faut bien qu'une fois on attache le grelot. Tout ce que je puis faire avec mes faibles moyens à la gloire de Dieu pour manifester la vérité, pour sauver l'Église universelle, pour augmenter votre puissance et celle de tous ceux qui aiment Dieu, avec l'aide de Dieu, je le ferai. » Ainsi s'égarait ce grand homme. Dieu a permis qu'il y eut des taches en ceux qui brillent le plus aux yeux du monde. Et un seul sur la terre a pu dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Nous assistons aux fautes de la réforme. Elles proviennent de l'union de la religion avec la politique. Je n'ai pu prendre sur moi de l'éther. Le souvenir des erreurs de nos devanciers n'est pas ce qu'ils nous ont légué de moins utile. Il paraît que déjà, à Marbourg, Zwingli et le Landgrave avaient tracé la première ébauche d'une alliance universelle contre Charles. Le Landgrave s'était chargé des princes. Zwingli des villes libres du sud de l'Allemagne et de la Suisse. Il alla plus loin et forma le dessein de gagner à cette ligue les républiques d'Italie, la puissante Venise tout au moins, afin qu'elle retînt l'empereur au-delà des Alpes et l'empêchât de porter toutes ses forces en Allemagne. Zwingli, qui avait prêché d'une voix forte contre les alliances étrangères, et proclamé à tant de reprises que le seul allié des Suisses devait être le bras du Tout-Puissant, se mit alors à rechercher ce qu'il avait condamné, et prépara ainsi le terrible jugement qui allait frapper sa famille, sa patrie, son Église. À peine était-il de retour de Marbourg que, sans qu'il en fût fait aucune communication officielle au Grand Conseil, il obtint du Sénat l'envoi d'un député à Venise. Les grands hommes, après leur premier succès, s'imaginent facilement que tout leur est possible. Ce ne fut point un homme d'État qui fut chargé de cette mission, mais un ami intime de Zwingli, celui qui l'avait accompagné en Allemagne, à la cour du chef futur du Nouvel Empire, le professeur de grec Rodolphe Collin, homme hardi, habile et qui savait l'italien. Ainsi, le réformateur tend la main au doge et au procurateur de Saint-Marc. Il n'a pas assez de la Bible, il lui faut le livre d'or. Cependant, il faut être juste envers ce grand homme. Ce qu'il désirait, c'était d'éloigner Charles, allié au petit canton, pour tuer les hérétiques. Il ne prétendait pas faire triompher l'Évangile par sa députation, mais rendre les bûchers plus difficiles. Il y avait d'ailleurs à Venise plus d'indépendance du pape que dans tout le reste de l'Italie. Luther lui-même écrivait alors à Gabriel Zwilling « Avec quelle joie j'apprends ce que vous m'écrivez des Vénitiens. Dieu soit béni et glorifié de ce qu'ils ont reçu sa parole. » Collin fut admis le 26 décembre en présence du doge et du Sénat, qui regardaient d'un air un peu étonné ce maître d'école, cet étrange ambassadeur, sans suite et sans appareil. On ne pouvait même comprendre ces lettres de créance, tant elles étaient singulièrement conçues. Collin dut en expliquer le sens. « Je viens à vous, dit-il, au nom du conseil de Zurich et des villes de la combourgeoisie chrétienne, cités libres comme Venise et auxquelles des intérêts communs doivent vous unir. » La puissance de l'empereur est redoutable aux hérétiques. Il tend en Europe à la monarchie universelle. S'il y parvient, tous les États libres périront. Il faut donc l'arrêter. Le doge lui répondit que la République venait justement de conclure une alliance avec l'empereur et laissa apercevoir la défiance qu'une si mystérieuse mission inspirait au Sénat vénitien. Mais plus tard, dans des conférences secrètes, le doge, voulant se ménager une issue des deux côtés, ajouta que Venise recevait le message de Zurich avec reconnaissance, et qu'un régiment vénitien, armé et soldé par la République même, serait toujours prêt à secourir les Suisses évangéliques. Le chancelier, couvert de sa veste de pourpre, accompagna Collin et lui confirma, à la porte même du palais, l'assurance d'un secours. Au moment où la Réformation avait franchi les superbes portiques de Saint-Marc, elle avait été atteinte de vertige. Elle ne pouvait plus que tournoyer et sombrer dans l'abîme. On congédia l'ambassadeur zurichois en lui mettant dans la main un présent de 20 couronnes. Le bruit de ces négociations se répandit bientôt, et les moins soupçonneux, Capiton par exemple, branlèrent la tête et ne survoirent dans cette prétendue entente que la perfidie accoutumée des Vénitiens. Ce n'était pas assez. Le réformateur, poussé par une fatale nécessité, prenait toujours plus la place des hommes politiques. Voyant que ses adversaires devenaient toujours plus nombreux dans l'Empire, il perdait peu à peu son aversion pour la France. Et bien qu'il y eût de plus qu'autrefois entre lui et François Ier le sang de ses frères répandu par ce monarque, il se montrait disposé à une union qu'il avait si énergiquement condamnée. Lambert Maigret, général français qui paraît avoir eu quelque penchant pour l'Évangile, ce qui excuse un peu Zwingle, entra en correspondance avec le réformateur, lui donnant à entendre que les desseins secrets de Charles Quint exigeaient une alliance entre le roi de France et les républiques helvétiques. « Appliquez-vous, lui disait ce diplomate, en février 1530, à une œuvre si agréable à notre Créateur, et qui, moyennant la grâce de Dieu, sera très facile à votre puissance. » Zwingle fut d'abord étonné de ces ouvertures. « Il faut, pensa-t-il, que le roi de France ne sache de quel côté se tourner. » Deux fois, il se refusa à cette demande. Mais l'envoyé de François Ier insista pour que le réformateur lui communiquât un projet d'alliance. À la troisième tentative de l'ambassadeur, le simple fils des montagnes du Toggenburg ne put résister à ses avances. Si Charles Quint doit tomber, ce ne peut être sans la main de la France. Pourquoi la Réformation ne contracterait-elle pas avec François Ier une alliance dont le but serait d'établir dans l'Empire un pouvoir qui saurait ensuite obliger le roi à tolérer la réforme dans son propre royaume. Tout semblait concourir au vœu de Zwingle. La chute du tyran s'approchait et allait entraîner celle du pape. Il communiqua au conseil secret les ouvertures du général et Colin partit chargé de porter à l'ambassade française le projet demandé. Dans les siècles anciens, y était-il dit, il n'est ni roi ni peuple qui ait résisté avec autant de fermeté à la tyrannie de l'Empire romain que le roi des Français et le peuple des Suisses. Ne dégénérons pas des vertus de nos pères. Le roi très chrétien, dont tous les vœux sont pour que la pureté de l'Évangile demeure sans aucune tache, s'engage donc à conclure, avec les villes de la combourgeoisie chrétienne, une alliance conforme à la loi divine et qui sera soumise à la censure des théologiens évangéliques de la Suisse. Suivaient les articles principaux du traité. Lanzeran, autre envoyé du roi, répondit le même jour, 27 février, à cet étonnant projet d'alliance qui devait se conclure entre les réformés suisses et le persécuteur des réformés français, sous réserve de la censure des théologiens. Ce n'était pas ce que voulait la France. C'était de la Lombardie et non de l'Évangile que le roi avait envie. Pour cela, il avait besoin du secours de tous les Suisses. Or, une alliance qui mettrait contre lui les cantons catholiques ne pouvait lui être agréable. Satisfait donc de connaître maintenant les dispositions de Zurich, les envoyés français battirent froid aux réformateurs. « Les choses que vous nous avez transmises sont rédigées dans un style admirable, lui disait Lanzeran. Mais je puis à peine les comprendre, sans doute à cause de la faiblesse de mon cerveau. Il ne faut jeter aucune semence en terre sans que le sol soit convenablement préparé. » Ainsi, la réforme en était quitte pour la honte de ses propositions. Puisqu'elle oubliait ses préceptes de la parole, ne portait pas un même joug avec les infidèles, comment d'éclatants revers ne l'aurait-il pas puni? Déjà, les amis mêmes de Zwingle commençaient à l'abandonner. Le landgrave, qui l'avait lancé dans cette carrière diplomatique, se rapprochait de Luther et cherchait à arrêter le réformateur suisse, surtout depuis que ce mot, prononcé par Erasme, était venu teinter aux oreilles des grands. On nous demande d'ouvrir nos portes, en criant bien haut « L'Évangile, l'Évangile !» Soulevez le manteau, et, sous ses plis mystérieux, vous trouverez la démocratie. Tandis que le réformateur suisse s'agitait ainsi et s'adressait en vain à la puissance des grands de la terre, les cinq cantons, qui devaient être les instruments de sa ruine, hâtaient de toute leur force ces jours funestes de vengeance et de colère. Le progrès de l'Évangile dans la Confédération les irritait. La paix qu'ils avaient signée leur devenait tous les jours plus à charge. « Nous n'aurons pas de repos, disait-il, que nous n'ayons brisé ces liens et regagné notre liberté première. » Une diète générale fut convoquée à Bade pour le 8 janvier 1531. Les cinq cantons y déclarèrent que si l'on ne faisait pas droit à leurs griefs, surtout quant à l'abbaye de Saint-Gall, ils ne paraîtraient plus en diète. Confédérés de Glaris, de Schaffhouse, de Fribourg, de Soleure, d'Appenzell, s'écrièrent-ils, aidez-nous à faire respecter nos antiques alliances, ou nous aviserons nous-mêmes au moyen d'arrêter les violences coupables. Que la Sainte Trinité nous assiste en cette œuvre. On ne s'en tenait point aux menaces. Le traité de paix avait expressément interdit les injures. De peur y était-il dit que, par des insultes et des calomnies, on excite de nouveau la discorde et l'on ne soulève des troubles plus grands que les premiers. Ainsi se trouvait cachée dans le traité même l'étincelle qui devait faire éclater l'incendie. Contenir les langues grossières des Wallstedts était chose impossible. De Zurichois, le vieux prieur Ravensbüller et le pensionnaire Gaspard Godley, qui avaient dû renoncer l'un à son couvent, l'autre à sa pension, s'étaient réfugiés, pleins du désir de la vengeance, dans les cantons forestiers et excitaient la colère du peuple contre leur ville natale. On disait partout dans ces vallées que les Zurichois étaient des hérétiques, qu'il n'y en avait pas un parmi eux qui ne commît des péchés scandaleux et qui ne fût tout au moins un larron, que Zwingle était un voleur, un meurtrier, un hérésiarque, et que, se trouvant à Paris, où il n'avait jamais été, il avait commis une action horrible pour laquelle Léon Judas lui avait prêté son assistance. « Je n'aurai pas de repos, disait un pensionnaire, que je n'ai plongé mon glaive jusqu'à la poignée dans le cœur de cet impie. » D'anciens chefs de bande, redoutés de tous à cause de leur caractère indomptable, les satellites qu'ils traînaient à leur suite, des jeunes gens orgueilleux, fils des chefs d'État, et qui se croyaient tout permis contre de misérables prédicants et leurs stupides ouailles, des prêtres enflammés de haine, et qui, marchant sur les pas de ces vieux capitaines et de ces jeunes étourdis, semblaient prendre la chair des temples pour l'escabeau des cabarets, versaient sur les réformés et sur la réforme des torrents d'injures. Les bourgeois des villes s'écriaient d'un commun accord des soldats ivres et des moines fanatiques, sont des hérétiques, des voleurs d'âmes, des meurtriers de conscience. Et Zwingle, cet homme horrible qui commet des péchés infâmes est le dieu luthérien. On allait plus loin encore. passant des paroles aux actes, les cinq cantons persécutaient les pauvres gens qui, parmi eux, aimaient la parole de Dieu. Ils les jetaient en prison, leur imposaient des amendes, les traitaient brutalement et les chassaient impitoyablement du pays. Ceux de Schwitz firent pis encore. Ne craignant pas d'annoncer leur sinistre dessein, ils parurent à une Langemeinde, portant à leur chapeau des branches de sapin en signe de guerre. Et nul ne s'y opposa. L'abbé de Saint-Gall, disaient quelques-uns, est prince de l'Empire et tient son investiture de l'empereur. S'imagine-t-on que Charles Quint ne le vengera pas? Ces hérétiques, disaient d'autres, n'osent-ils pas former une combourgeoisie chrétienne, comme si la vieille Suisse était un pays païen? À tout moment, on tenait quelque part des conseils secrets. On recherchait de nouvelles alliances avec le Valais, avec le pape, avec l'empereur. Alliances blâmables, sans doute, mais que l'on pourrait du moins justifier par ce proverbe « Qui se ressemble, s'assemble », ce que Zurich et Venise ne pouvaient dire. Les Valaisans refusèrent d'abord leur secours. Ils préféraient demeurer neutres. Mais tout à coup, leur fanatisme s'enflamme. On a trouvé sur un autel, le bruit du moins s'en répand dans toute leur vallée, une feuille de papier où l'on accuse Zurich et Berne de prêcher publiquement que, de tous les péchés, le plus grand est d'entendre une messe. On s'étonne, on s'indigne. Qui a placé sur l'autel cette feuille mystérieuse? Vient-elle d'un homme ou de quelque esprit malin? On l'ignore. Mais quoi qu'il en soit, on la copie, on la répand, on la lit. Et l'effet de cette fable inventée par des scélérats, dit Swingle, est que le valet accorde aussitôt le secours qu'il avait d'abord refusé. Alors, les Valstedts, fiers de leur force, serrent les rangs. Leur regard farouche menace les cantons hérétiques, et les vents portent de leurs montagnes à leurs voisins des villes un cliquetis redoutable de cuirasses et d'épées. En présence de ces alarmantes manifestations, les villes évangéliques s'émurent. Elles se réunirent d'abord à Bâle, en février 1531, puis à Zurich en mars. Que faire, dirent les députés de Zurich, après avoir exposé leurs griefs? Comment punir ces infâmes calomnies et faire tomber ces armes menaçantes? Je comprends, répondirent ceux de Berne, que vous vouliez recourir à la force. Mais pensez à ces secrètes et formidables alliances qui se traitent avec le pape, avec l'empereur, avec le roi de France, avec tant de princes et de seigneurs, en un mot, avec tout le parti romain, pour hâter notre ruine. Pensez à l'innocence de tant d'âmes pieuses qui, dans les cinq cantons, déplorent ces machinations perfides. Pensez qu'il est facile de commencer une guerre, mais que personne n'en connaît la fin. Triste présage qu'une catastrophe qui devait aller au-delà de toutes les prévisions humaines n'accomplit que trop tôt. Envoyons donc une députation aux cinq cantons, continuèrent les Bernois. Demandons-leur de punir, conformément aux alliances, ces calomnies infâmes. Et s'ils s'y refusent, rompons tout commerce avec eux. À quoi servira cette mission, dirent ceux de Bâle? Ne connaissons-nous pas la grossièreté de ce peuple? Et n'est-il pas à craindre que les mauvais traitements qu'ils feront subir à nos députés n'enveniment encore l'affaire? Convoquons plutôt une diète générale. Schaffhouse et Saint-Gall s'étant joints à cet avis, Berne convoqua une diète à Bade pour le 10 avril. Les députés de tous les cantons y accoururent. Plusieurs des chefs de l'État parmi les Valstedts n'approuvaient point les violences des soldats en retraite et des moines. Ils comprenaient que ces insultes sans cesse renouvelées nuisaient à leur cause. « Ces injures dont vous vous plaignez, dirent-ils à la diète, ne nous affligent pas moins que vous. Nous saurons les punir et même nous l'avons déjà fait. Mais il y a des hommes violents des deux côtés. » L'autre jour, un Balois ayant rencontré sur la grande route un homme qui revenait de Berne, et ayant appris de lui qu'il allait à Lucerne, « Aller de Berne à Lucerne, s'écria-t-il, c'est passer d'un père à un maître fripon. » Les cantons médiateurs invitèrent les deux parties à bannir toute cause de discorde. Mais la guerre du châtelain de Musso ayant alors éclaté, Zwingle et Zurich, qui voyaient le premier acte d'une vaste conjuration destinée à étouffer partout la réforme, convoquèrent leurs amis. « Il ne faut plus balancer, » dit Zwingle. « La rupture des alliances de la part des cinq cantons et les injures inouïes dont on nous accable nous imposent l'obligation de marcher contre nos adversaires, avant que l'empereur, retenu encore par les Turcs, ne chasse le Landgrave, ne s'empare de Strasbourg et ne nous subjugue nous-mêmes. » Tout le sang des anciens Suisses semblait bouillonner dans les veines de cet homme. Et, tandis Curie, Schwitz et Underwald baisaient honteusement la main de l'Autriche, ce Zurichois, le plus grand Helvétien de son siècle, fidèle au souvenir de l'ancienne Suisse, mais infidèle peut-être à des traditions plus saintes encore, se jetait sur les traces audacieuses des Stauffacher et des Winkelried. Le langage guerrier de Zurich épouvanta ses confédérés. Bâle demanda une sommation aux Waldstedts, puis en cas de refus la rupture de l'alliance. Schaffhouse et Saint-Gall s'effrayèrent même d'une telle démarche. Le peuple des montagnes, fier, indomptable, irrité, dirent-ils, acceptera avec joie la dissolution de la Confédération. Et alors, serons-nous plus avancés? On en était là quand parurent, au grand étonnement de tous, des envoyés d'Urie et de Schwitz. On les reçut avec froideur. Le vin d'honneur ne leur fut pas même présenté. Et ils durent s'avancer, à ce qu'ils racontent, au milieu des cris injurieux du peuple. Ils tentèrent inutilement d'excuser leur conduite. « Ce que nous attendons depuis longtemps, leur répondit-on sèchement, c'est que vous mettiez d'accord vos actions et vos paroles. » Les hommes de Schwitz et d'Urie reprirent tristement le chemin de leur foyer, et l'assemblée se sépara, pleine d'angoisse et de deuil. Zwingle voyait avec une vive peine les députés des villes évangéliques s'éloigner, sans avoir pris de décision. Il ne voulait plus seulement une réformation de l'Église, il voulait aussi une transformation de la Confédération. Et c'était même cette dernière réforme qu'il prêchait alors du haut de la chaire, à ce que nous apprend Bullinger. Il n'était pas seul à la désirer. Depuis longtemps, les citoyens des villes les plus populeuses et les plus puissantes de la Suisse s'étaient plaints de ce que les Waldstedts, dont le contingent d'hommes et d'argent était très inférieur au leur, avaient une part égale dans les délibérations de leur diète et dans les fruits de leur victoire. Tel avait été le sujet des divisions qui suivirent les guerres de Bourgogne. Les cinq cantons, au moyen de leurs adhérents, avaient la majorité. Or, Zwingle pensait que c'était dans les mains des grandes villes, et surtout des puissants cantons de Zurich et de Berne, que devait être placée les reines de la Suisse. Les nouveaux temps demandaient, selon lui, des forces nouvelles. Il ne suffisait pas de renvoyer des charges publiques les pensionnaires des princes et de mettre à leur place des hommes pieux. Il fallait encore refondre le pacte fédéral et l'établir sur des bases plus équitables. Une constituante nationale eut sans doute répondu à ses désirs. Ses discours, qui étaient plutôt ceux d'un tribun du peuple que ceux d'un ministre de Jésus-Christ, devaient hâter la catastrophe. Les paroles animées du réformateur patriote passaient de l'église où il les prononçait dans les conseils, dans les salles des tribus, dans les rues et dans les campagnes. Les flammes qui sortaient des lèvres de cet homme embrasaient le cœur de ses concitoyens. Il y avait comme un tremblement de terre qui partait de Zurich et dont les secousses se faisaient sentir jusque dans le chalet le plus sauvage. Les anciennes traditions de sagesse et de prudence semblaient oubliées. L'opinion publique se manifestait avec énergie. Le 29 et le 30 avril, des cavaliers sortant de Zurich précipitaient leur course. C'étaient des envoyés du Conseil, chargés de rappeler à toutes les villes alliées les attentats des 5 cantons et de demander une décision prompte et définitive. Arrivés à leurs diverses destinations, ces messagers firent valoir les griefs de Zurich. « Prenez-y garde, » dirent-ils en finissant. « De grands dangers nous menacent tous. L'empereur et le roi Ferdinand font de grands préparatifs et vont entrer en Suisse avec beaucoup d'argent et d'hommes. » À la parole, Zurich joignait l'action. Cet État, décidé à tout faire pour établir la libre prédication de l'Évangile dans les bailliages où il partageait avec les cantons catholiques romains l'exercice de la suzeraineté, voulait intervenir par la force partout où les négociations ne pouvaient suffire. Le droit fédéral, il faut le reconnaître, était foulé aux pieds à Saint-Gall et en Turgovie, dans le Rhénetal, et Zurich le remplaçait par des décisions arbitraires qui devaient exciter au plus haut degré l'indignation des Wallstätts. Aussi, le nombre des ennemis de la réforme ne cessait-il de s'accroître. Le langage des 5 cantons devenait plus menaçant de jour en jour, et les ressortissants de Zurich, que leurs affaires appelaient dans les montagnes, y étaient accablés d'injures et quelquefois de mauvais traitements. Ces grossièretés et ces violences exaltaient à leur tour la colère des cantons réformés. Zwingle parcourait la Turgovie, Saint-Gall et le Toggenburg. Il y organisait des synodes, il assistait à leurs séances, il prêchait devant les foules émues et enthousiastes. Partout, il était entouré de confiance et de respect. À Saint-Gall, le peuple se réunit sous ses fenêtres, et un concert de voix et d'instruments lui exprima, par des chants harmonieux, la reconnaissance publique. « Ne nous abandonnons pas nous-mêmes, » disait-il sans cesse, « et tout ira bien. » Il fut résolu qu'on se réunirait à Aarau le 12 mai pour aviser une situation qui devenait de plus en plus critique. Cette réunion allait devenir le commencement des douleurs.